Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
8h03 sur Radio IMO. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, vous venez de louper une heure d'info, mais c'est pas grave. Vous pourrez retrouver tout un podcast d'ici quelques instants, et notamment la start-up IMO, qui est la nouvelle chronique, hein, signée Jean-Michel Royot dans cette première heure du MAC de l'IMO, où on vous fait découvrir chaque semaine une nouvelle start-up en direct sur le plateau. Mais en attendant, eh bien, vous allez rester avec nous en direct pour l'heure consacrée à notre grand témoin du jour. Je dis avec nous, puisque je suis avec Fabrice Coustet ce matin. Toujours en forme, Fabrice.
Bonjour, Johanna. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent voilà, à 8h03. Bon réveil, s'il y en a encore qui sont dans leur lit.
Les petits chanceux. Il y en a un qui n'a pas pu rester dans son lit ce matin. C'est notre grand témoin du jour, Régis Comartin. Rebonjour, Régis.
Rebonjour, Johanna.
Vous êtes un lève-tôt ou...
Pas vraiment. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai dû me faire un petit peu violence ce matin.
Combien de réveils pour se faire violence?
En ce moment, on enchaîne deux ou trois réveils.
En tout cas, on vous remercie, on est ravis de vous recevoir. On va découvrir un petit peu plus l'homme que vous êtes. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de M Capital, dont vous êtes le directeur immobilier. Qu'est-ce qu'on y fait?
Alors M Capital, c'est une société de gestion de fonds et on y fait beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler évidemment de la partie immobilière. Et sur notre filiale immobilière M Capital Real Estate, on finance des opérations immobilières et on accompagne les opérateurs dans une forme de transformation éco-responsable, puisqu'on les accompagne vers des projets plus verts et plus vertueux en finançant leurs fonds propres et en les accompagnant bien évidemment financièrement dans ces opérations.
Ça doit bien marcher en ce moment, c'est dans l'air du temps, tous ces projets, tout ce volet écologique.
Oui, c'est vrai que c'est une vraie couleur que l'on donne à l'immobilier désormais. Et puis, je pense que c'est générationnel. Et puis, c'est une situation à l'instant T qui mérite justement qu'on s'attarde désormais à nos logements, à la manière dont ils sont conçus, à décarboner bien évidemment au maximum les projets immobiliers pour préserver bien évidemment notre planète, notre environnement, et puis laisser à nos enfants un immobilier qui soit plus responsable.
Donc c'est principalement du résidentiel ?
Oui, c'est principalement du résidentiel. Nous attardons à accompagner principalement des acteurs de l'immobilier résidentiel aujourd'hui, même si quand on nous soumet des projets d'activité ou des projets tertiaires, on les étudie et on essaie bien évidemment, je pense notamment à la transformation de bureaux en logement, on essaie d'accompagner ces opérateurs qui souhaitent travailler dans la même veine et avec les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire vers ces projets plus verts et plus vertueux, plus éco-responsables tout simplement.
C'est un grand sujet, ça, hein, la transformation de bureaux en logement, et notamment à Paris, où on manque un peu de place.
Oui, c'est vrai, c'est cyclique. Hein. Il y a quelques années, Paris a vécu une transformation d'un certain nombre de logements en bureaux. Aujourd'hui, on se pose la question inverse. À n'en pas douter, comme tout le monde sait, l'immobilier, c'est un métier de cycle. Et aujourd'hui, on est dans ce cycle-là, et je pense que c'est plutôt une bonne chose.
Ah, en plus, avec la révolution, c'est vrai, du télétravail qu'on connaît en ce moment, alors on ne sait pas, peut-être que ça va être le retour à la normale dans quelques semaines. Est-ce que vous pensez justement que cette phase qu'on a tous connue, elle a accéléré certains changements de comportement ?
Oui, c'est clair. Cette malheureuse crise que nous traversons, d'abord sanitaire, le seul peut-être effet bénéfique, c'est qu'elle a été du coup un accélérateur de tendance, ce qui commencer à infuser avec un certain nombre d'acteurs qui ont réfléchi des espaces de coworking, qui ont réfléchi aujourd'hui le logement sous forme de co-living. On peut raisonnablement penser que les choses vont s'accélérer désormais vers cette transformation d'une nouvelle manière de travailler et d'une nouvelle manière d'habiter également, parce qu'on va parler désormais beaucoup de l'usage des logements. On en parlait tout à l'heure avec pour des logements aujourd'hui, ils sont difficilement concevables sans sortie extérieure, sans espace vert dans une résidence. C'est une prise de conscience, mais qui était déjà assez prégnante dans l'esprit des acquéreurs jusqu'à présent. Donc nous, notre job aujourd'hui, c'est d'accompagner justement ces opérateurs et ces promoteurs immobiliers qui souhaitent aller très vite et très fort dans cette direction, et on va les accompagner en ce sens.
Régis, vous avez rejoint du coup M Capital, c'était il y a une année.
Exactement, une année.
M Capital, c'est vrai que c'est bon, on n'a pas tellement l'habitude. Pourtant, c'est un groupe qui a déjà 20 ans et qui s'est renommé parce que M Capital, auparavant, c'était Midi Capital, et une société qui est née à Toulouse il y a 20 ans exactement.
Exactement, pour refaire du coup un petit peu d'historique, il y a 20 ans, nous étions l'asset manager de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, donc on faisait partie du groupe BPCE, et puis il y a 5 ans, on est devenu totalement autonome et indépendant. On a enlevé le midi qui résonnait un petit peu trop dans l'esprit des Toulousains de l'appartenance du groupe BPCE pour devenir M Capital, effectivement. Et sur la base des mêmes métiers que nous faisions auparavant, à savoir le capital risque, l'accompagnement des startups, le capital développement, l'accompagnement des PME. Et puis, depuis quelques années désormais, un nouveau métier qui est la dette privée, axé sur le tourisme, et dans lequel nous accompagnons des opérateurs touristiques, des porteurs de projets touristiques, notamment grâce au Fonds Tourisme Occitanie et également sur le Fonds Tourisme Nice-Côte d'Azur, qui nous permet aujourd'hui, et la période est du coup importante pour cela, d'accompagner des porteurs de projets touristiques et permettre au tourisme français dans ces régions, dans ces belles régions, de pouvoir continuer à vivre.
Donc il y a toujours finalement cet ADN du Midi.
Oui, nos sources, nos racines sont toulousaines, même si nos bureaux peuvent être parisiens, évidemment. Mais on a vocation à travailler, évidemment, sur tout le territoire. Hein. On ne travaillera pas que dans le sud-ouest ou dans le sud-est. On travaille aujourd'hui à la fois sur l'immobilier sur tout le territoire et puis sur d'autres domaines. On accompagne des entreprises sur l'ensemble du territoire français.
Alors évidemment depuis un an M Capital, voilà, avec une arrivée pas évidente hein, en plein confinement, on imagine, avec les c'est conditions qu'on connaît. Pour autant, ce secteur de la promotion, c'est quelque chose que vous connaissez bien, Sporting Promotion, Next City auparavant. Racontez-nous justement ce parcours là, un petit peu à travers toutes ces expériences, Régis Comartin, où vous en êtes aujourd'hui et est-ce que le métier, comment vous le voyez, il évolue ce métier?
Oui, l'immobilier en quelques années a déjà beaucoup évolué et depuis 30 ans, vraiment, il s'est véritablement transformé parce que justement les nouveaux usages et les nouvelles demandes des acquéreurs potentiels dans l'immobilier ont évolué également. Donc c'est normal que notre industrie se pose de bonnes questions et puis évolue, je pense notamment à la digitalisation à tous les stades de l'immobilier qui est aujourd'hui très prenante.
Il était temps quand même, ça a mis du temps à se faire, ça s'est fait tard.
C'est vrai que par rapport à d'autres industries, l'immobilier n'était pas forcément en avance sur la digitalisation de ses process ou de ses outils. Je pense qu'on est en train de le rattraper, ce retard, et qu'on parlait d'une crise qui favorise les tendances. Désormais, on ne conçoit pas de signer, par exemple, un contrat de réservation autrement qu'avec une réservation électronique et avec son smartphone. Donc, ça y est, on y est enfin, et je pense qu'il y a encore de belles innovations technologiques dans les prochaines années à voir dans l'immobilier.
Donc ce ne sera pas un feu de paille pour vous? Tout le monde ne retournera pas à ses vieilles habitudes une fois la crise terminée?
Non, je pense que les nouvelles générations vont de toute façon nous pousser à continuer à faire évoluer notre métier, c'est certain.
Ouais, c'est sûr, effectivement. On a des métiers, évidemment, qui se transforment. On a l'impression... une certaine frénésie de la part justement des acquéreurs en ces débuts d'année. Alors là, peut-être la crise est passée par là, peut-être qu'on a beaucoup d'épargne qu'on n'a pas pu mobiliser sur certaines, évidemment. On dit aujourd'hui dans les territoires que tout part, même les fonds de cuve, entre guillemets, c'est-à-dire des biens qui étaient peut-être un peu décotés, qui avaient du mal à partir. Là, on voit que ceux qui ont certains pouvoirs d'achat, ceux qui étaient dans les villes, et pas seulement à des Parisiens qui descendent en province, c'est aussi qui étaient dans des grandes villes et qui vont en périphérie, eh bien, se jettent sur n'importe quel bien. Est-ce que vous ressentez, est-ce que vous le vérifiez au jour le jour?
Alors, c'est vrai que nous finançons principalement des opérations proches des grandes métropoles françaises pour des questions... aussi d'accompagner la transformation des villes. On a le souhait de construire la ville sur la ville, donc on est positionné plutôt sur les grandes métropoles françaises, mais je pense que vous avez raison, et les agents immobiliers que nous connaissons tous témoigneront peut-être mieux que moi dans le domaine. La maison, qui est finalement le souhait de tous les Français, la maison, le jardin, aujourd'hui vit une période assez faste. Et c'est un produit qui est effectivement très demandé et qui doit être vendu, à mon avis, beaucoup plus rapidement que sur les années précédentes. Oui.
Et les enjeux pour les territoires, on a l'impression que là aussi, on dit souvent Covid, meilleur que data. Bon, ça parlera aux plus anciens, donc l'aménagement du territoire qui s'est reconstitué finalement. On a redécouvert nos territoires et même l'envie des Français est là. C'est vrai peut-être de plus redécouvrir ces territoires, s'y installer même pour y vivre.
Oui, c'est vrai, vous parliez de télétravail. On a découvert la possibilité de travailler à distance de manière plus régulière, on va dire, et pas uniquement le lundi ou le vendredi pour s'aménager un week-end plus confortable. C'est possible. Les outils technologiques, on en parlait, permettent ce télétravail. Donc je pense que aujourd'hui, ce que l'on vit comme une période hybride, puisqu'on a été contraint et forcé de le faire, va devenir quasiment une norme, avec un aménagement du temps de travail, des espaces de travail, de l'organisation du travail, qui permet effectivement de redécouvrir des territoires. Il y a des personnes effectivement qui s'éloignent un petit peu des grandes métropoles temporairement pour rechercher un peu de calme, un peu de verdure, une qualité de vie, et qui pour autant continuent à travailler dans de bonnes conditions. Alors j'y mets peut-être un bémol, c'est aujourd'hui le réseau, la fibre, le Wi-Fi, qui est un élément indispensable pour télétravailler, peut-être pas
encore.
C'est
la première chose qu'on vérifie quand justement on veut se délocaliser.
Effectivement, les agents immobiliers disent que parmi les critères
ça fait partie des critères de recherche plébiscité, bien sûr.
Oui, tout à fait. Je pense que ça va être un élément prépondérant également dans le choix de futurs acquéreurs.
Et pour vous, Régis Comartin, donc entre Toulouse et Paris, ça veut dire moins de déplacements peut-être vers la capitale, en plus de... Vous pourrez rester vers Toulouse.
Oui, c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai modifié un petit peu mes habitudes de déplacement. En général, je viens à Paris une fois tous les 10 jours, 15 jours. Et là, c'était plutôt une fois par mois et encore quand on pouvait se déplacer. Donc, bon, j'ai pas moins bien travaillé, je pense pas. Mais pour le coup, les rendez-vous en physique me manquent avec les opérateurs en particulier. Travailler à distance et essayer de s'immerger dans la vie des opérateurs, de les accompagner au mieux, d'aller visiter les chantiers avec eux, de découvrir de nouvelles opportunités. C'est quand même la base de notre métier, donc c'est quand même difficile également de le faire à distance. Donc, dans l'orientation du travail, il y a aussi des métiers qui vont être difficiles à faire à distance.
D'autant que beaucoup de métropoles d'équipes se sont rapprochées de Paris avec la LGV, Bordeaux à 2 heures. Par contre, Toulouse, ça reste un peu plus problématique. Alors, on a appris que la LGV,
a priori.
Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, qui est pas très loin, donc a plaidé la cause. Et donc, on a une date, alors c'est 2024-2028.
C'est combien de temps actuellement, Toulouse-Paris ?
Toulouse-Paris, train, vous êtes sur 4 heures, une base de 4h30, si tout va bien.
Effectivement, sur une journée, c'est un peu compliqué, ça fait un peu
l'aller-retour, c'est embêtant.
Un peu de trajet.
Mais l'aller-retour dans la journée, c'est pas possible.
Donc, voilà. Il faut prévoir. Et le Premier ministre a parlé, Jean Castex, donc a pris fait et cause, et on aurait une LGV, donc un tronçon qui devrait arriver également.
Oui, qui va améliorer considérablement le temps de trajet, qui permettra du coup de
Paris,
ne plus être
de Toulouse, 3 heures.
Ou même peut-être un peu moins. À peu près ça, effectivement.
Comme Paris-Marseille, donc ça va changer la donne aussi pour Toulouse. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Toulouse qui a déjà flambé, ça fait partie des villes où il fait bon vivre, où beaucoup de gens ont envie de s'installer. Ça ne se dément pas, évidemment, avec ce qui vient de nous arriver. Vous êtes Toulousain de cœur. Vous imaginez pas vivre ailleurs, Régis Comartin ?
Non, ça serait compliqué aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité de le faire par le passé. Ouais. Je n'ai pas saisi ces opportunités-là.
Donc vous n'avez jamais vécu à Paris, par exemple ?
Non, j'y ai beaucoup travaillé, mais pas vraiment vécu. Non, ouais. Quand on est à Paris du lundi au vendredi, on a l'impression d'y vivre malgré tout, mais pas avec sa famille.
C'est dingue, comme quoi il y a encore des gens qui ne sont pas montés à Paris pour travailler.
Exister,
on en parlait tout à l'heure.
On a besoin de forces vives aussi dans les territoires, heureusement.
Donc c'est possible, ça fait du bien. Écoutez, puisqu'on parle de travail, qu'on a parlé de votre parcours et notamment de votre passage chez Nexity, je commence à spoiler un peu là, mais je vais quand même vous laisser nous expliquer. On va écouter un premier témoignage, un témoignage professionnel, hein, comme c'est la coutume. Vous avez choisi ce matin de laisser la parole à Philippe Silberstein. Je le disais, vous l'avez connu chez Nexity, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Oui.
Vous pouvez nous raconter un petit peu cette rencontre, pourquoi vous l'avez choisi ?
J'ai choisi Philippe tout simplement parce qu'il m'a beaucoup aidé. Je ne venais pas de l'immobilier à la base, je n'étais pas destiné à travailler dans l'immobilier.
Vous faisiez quoi ?
Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Je dirigeais un réseau de vente dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et avant cela, j'étais prof de sport. Donc finalement, j'ai fait trois métiers dans ma vie. Il paraît que dans les statistiques futures, on en fera au moins quatre. Donc je ne sais pas quel sera le quatrième. Il en reste un. Voilà, exactement. Donc j'ai choisi Philippe tout simplement parce que c'est là une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque je suis arrivé chez Nexity. C'était Jean-Philippe Ruggieri qui m'a présenté Philippe, bien évidemment. Et je l'avais même croisé avant de travailler chez Nexity, mais c'est Philippe qui m'a pris finalement sous son aile quand je suis arrivé chez Nexity, qui m'a donné un petit peu quelques clés d'une intégration à la fois chez Nexity et dans l'immobilier. Et on peut dire que grâce à lui, je pense que j'ai compris le plus vite possible ce qu'il fallait pour essayer de réussir dans l'immobilier.
Eh bien, on écoute ce qu'il a à nous dire sur vous. On Avec écoute plaisir. Tout de suite Philippe Silberstein.
Bonjour Philippe Silberstein.
Bonjour Joanne.
Vous avez connu Régis Caumartin dans le cadre professionnel. Est-ce que vous vous souvenez de cette première rencontre ?
Alors tout à fait. Nous nous sommes connus, Régis et moi, dans le cadre de précédentes sociétés, notamment chez Nexity, où de façon opérationnelle, nous avions pas mal de sujets en commun. Et à cette occasion, on a appris évidemment à se connaître et à nous apprécier.
Il est quel genre de professionnel ? Il est plutôt requin ou plutôt agneau ?
Alors, c'est un très bon professionnel qui a beaucoup de rigueur, qui est assez méticuleux, surtout très ouvert à comprendre les problématiques de chacun. Et puis, c'est normal pour un ancien rugbyman, très collectif.
Ça, c'est le côté du Sud ?
Alors, oui, ça, c'est le côté du Sud. Après, on va dire que c'est un requin dans un corps d'agneau.
Est-ce que c'est gentil de dire ça ?
Oh bah oui, parce que c'est plutôt flatteur.
On lui posera la question. Vous le savez, Philippe, Régis est avec nous en plateau. Il vous écoute, il découvre votre témoignage en direct. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser l'antenne pour lui passer un message ou même, pourquoi pas, pour lui dire quelque chose que vous n'avez jamais osé lui dire. Il vous écoute.
Alors, bonjour Régis, tout d'abord. Écoute, je ne sais pas si je ne te l'ai jamais dit ou pas, mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Surtout, ne change rien. Et puis, surtout, Régis, garde toutes tes valeurs humaines qui sont importantes et qui font que les gens t'aiment. Et je t'embrasse et puis surtout, à très très bientôt.
Un agneau dans un corps de requin.
C'est particulier comme métaphore. Que vous dire ? Comment dois-je le prendre ? Bien évidemment. Requin, je ne pense pas, parce que c'est une métaphore qu'on utilise beaucoup dans l'immobilier, mais je ne pense vraiment pas que je sois déterminé, c'est une chose. Je ne suis pas prêt à tout pour réussir. Disons que Philippe a un petit peu dévoilé ma passion qui est le sport, et effectivement, je suis un ancien rugbyman. Donc. Gagner, oui, ça m'importe de gagner, mais pas à n'importe quel prix. Donc, c'est quand même. Je pense qu'on peut travailler avec le respect de certaines valeurs, même dans l'immobilier.
Mais justement, il parlait de vos valeurs humaines. Comment vous concevez le business au quotidien ? Vous placez l'humain avant tout ou...
Oui, je pense que de toute façon, on travaille. En tout cas, mon métier aujourd'hui, c'est de rencontrer des opérateurs immobiliers. Et. Si on ne met pas l'humain avant tout, vous savez, quand on finance leur projet, la différence entre deux opérateurs qui sont en capacité de financer leur projet va certainement se faire grâce aux valeurs que l'on transmet, que l'on véhicule. Et si on a ces points communs-là avec les opérateurs, on sait qu'on travaillera en confiance, en transparence, et ça nous permettra de mener à bien et dans les meilleures conditions possibles à la fois notre relation professionnelle et notre relation personnelle qui sont, à mon avis, indissociables.
Moi, je voudrais revenir justement sur vos trois métiers. Je trouve ça très intéressant. On commence par votre première passion. Vous l'avez dit, de toute façon, quand on est à Toulouse, on tombe dedans quand on est petit, c'est le rugby.
C'est vrai, c'est un petit peu une religion à Toulouse, bon. Dans le sud-ouest de manière générale.
Et ça tombe bien, l'enjeu c'est de ramener un trophée européen par exemple. Ça va être dur, parce que c'est contre un autre club français, La Rochelle, donc la finale en tout cas entre clubs français. Bon, ça c'était pour le petit aparté sportif. Racontez-nous votre expérience quand même, parce qu'elle est, moi je trouve qu'elle est fondatrice, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sportifs reconvertis dans des métiers de la finance, de l'immobilier, qui sont souvent très performants. Est-ce que ça vient justement de votre formation, du sens de la compète ? Dites-nous votre niveau d'ailleurs au rugby, parce que tout le monde joue au rugby à Toulouse, mais pas tout le monde au Stade Toulousain.
Effectivement, j'ai eu la chance de jouer au Stade Toulousain et d'être champion de France avec l'équipe junior. Voilà, donc il y a un certain nombre de joueurs avec qui j'ai joué qui ont fait de très belles carrières, comme Thomas Castagnette, par exemple, pour citer un des plus connus. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Et puis ensuite, j'ai joué à Blagnac, c'était l'équivalent de la Pro D2, et à Montauban également, c'était l'équivalent de la Pro D2 actuelle. Donc c'est un niveau honorable, mais pas une grande carrière sportive.
Ouais. Voilà. Pas de quoi être professionnel et en vivre. En plus, c'est des carrières courtes, de toute façon. Même des sportifs de haut niveau, il faut qu'ils pensent à l'après.
C'est vrai.
Et ensuite, comment s'est fait la transition ? Puisque vous nous disiez, prof de sport, c'est vrai que ça paraissait logique. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour tomber dans l'industrie pharmaceutique ?
Alors, ça fait partie des hasards de la vie, on en parlait tout à l'heure, mais j'avais l'ambition d'en vivre, de vivre de ma passion, mais dans la fin des années 90, et oui, il faut remonter jusque-là. On n'était pas professionnel de rugby, même si on était défrayés. Oui, il y avait beaucoup moins d'argent. Et donc, on pouvait en vivre lorsque l'on était étudiant, mais on ne pouvait pas imaginer une carrière sportive à long terme, qui puisse être une carrière professionnelle qui puisse être alimentée par une carrière sportive. Donc, le sport étant ma passion, je m'étais orienté assez naturellement vers le professorat de sport. Et malheureusement, à 24 ans, c'était une année blanche. J'ai été fauché par deux opérations successives, une au genou et une à l'épaule, qui ont fait que je me suis posé de bonnes questions, à savoir que le rugby n'était pas un avenir pour moi.
Physiquement, vous voulez dire ou...
Oui, ou les deux. Professionnellement et physiquement.
On a l'habitude de dire que ça fait pas des beaux vieux le rugby, parce que c'est vrai qu'on prend des coups, hein, c'est quand même un sport à impact. Bref, vous dites, tiens, je vais me soigner avec la pharmacie à ce moment-là.
Alors, une entreprise dans l'industrie pharmaceutique, un laboratoire pharmaceutique avait passé une annonce pour commercialiser des produits dans la traumatologie du sport. Et figurez-vous, je suis allé à l'entretien avec des béquilles. Donc, et c'était pas faux. Je venais de me faire opérer du genou et voilà, j'avais trouvé assez naturel, de par mon caractère, de pouvoir commencer à vendre. Mmh. Et pourquoi pas des produits en traumatologie du sport. C'est comme ça que j'ai démarré.
D'accord, donc carrière de vendeur. Oui. Au début, oui. Et puis ensuite, on va accélérer un petit peu. Comment se fait la transition du coup de vendeur de produits pharmaceutiques ou du moins de solutions équipements à l'immobilier ?
Plutôt la décision d'un changement de vie, et il y a une personne qui m'était très chère, qui m'a aidé en cela, qui était un ami, Jean-Philippe Ruggeri, et qui m'a tendu la main à un moment pour changer de vie. Voilà, je souhaitais plus être dans les avions, dans les trains en permanence, aux quatre coins de la France. Et donc, il m'a proposé de le rejoindre il y a 7 ans désormais, 8 ans même, pour travailler chez Nexity, travailler à ses côtés de manière indirecte et du coup intégrer un nouveau milieu qui, pour lui, était une évidence, puisqu'il m'avait déjà proposé de le rejoindre lorsque lui était monté à Paris, chose que j'avais refusée justement parce que je jouais au rugby et que je voulais continuer à jouer au rugby. Mais sa deuxième proposition a été décisive et du coup je l'ai rejoint assez facilement.
D'accord, donc vous le rejoignez du coup en tant que...
En tant que directeur commercial dans la filiale de Nexity Promotion à Toulouse.
D'accord, donc la fibre commerciale hein, déjà, Régis Comartin. Bon, vous étiez habitué, on change de petite mallette, mais aussi peut-être on arrête de courir aux quatre coins de la France, on se pose un petit peu et...
Exactement, je me suis posé à Toulouse, dans l'immobilier à Toulouse.
Eh bien non, on ne va pas se poser avec votre deuxième titre musical, puisque c'est le titre des Daft Punk, Harder, Faster, Better, Stronger. Toujours plus haut, toujours plus fort, c'est votre devise ?
Oui, je pense que ce n'est pas très original, mais néanmoins, ça fait partie des titres qui donnent la pêche également et qui sont assez représentatifs de l'esprit de compétition qui m'anime.
Eh bien, on écoute les Daft Punk et on revient juste après avec Régis Comartin. We'll be right back.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Et on est de retour sur le plateau du Mac de l'Imo avec notre grand témoin Régis Comartin, le directeur immobilier de M Capital, avec Fabrice Coustet également. Et nous allons aborder un autre aspect de Régis Comartin. Moi, je voudrais savoir quelle enfance vous avez eue, quel petit garçon vous étiez. Vous étiez plutôt bon élève ou plutôt un peu casse-cou?
Mix des deux.
Racontez-nous.
Un parcours scolaire tout à fait honorable.
Déjà le rugby, je suppose, petit.
Oui, à partir de 5 ans. J'ai démarré très tôt.
Quel collège, quel lycée, pour ceux qui...
J'étais au collège Anatole France à Villeneuve-sur-Lot, dans le sud-ouest. Donc, ce n'était pas à Toulouse. Et mon père était entraîneur de rugby. Donc, la filiation était... normal, naturel. Je crois que j'ai pas eu le choix, mais ça m'a beaucoup plu.
Il vous a mis au rugby directement. Vous aviez des frères ?
Deux frères.
Ah, magnifique. C'est presque une équipe. Combien il y a de joueurs
dans
l'équipe de rugby ?
Il en manque un peu, effectivement.
15.
Ah oui, effectivement, il en manque
un
peu.
C'est pas du basket.
C'est une mini-équipe, c'est pour le mini-rugby.
Désormais, vous avez le rugby à 7, hein, qui est discipline olympique. Donc, ça réduit un peu pour les...
Voilà, donc on a une moitié d'équipe.
Moins connue sous nos latitudes, mais c'est vrai.
Donc vous jouiez tous ensemble, je suppose ?
Et non. Non, parce que j'ai beaucoup d'écart d'âge avec mon dernier frère, donc on n'a pas pu jouer ensemble, même si lui aussi a joué au rugby.
Vous êtes où, vous, dans la fratrie ?
Je suis l'aîné. Et mon second frère, lui, était plutôt équitation. Je crois que c'est un domaine que vous connaissez bien, Johanna.
Un tout petit peu. Oui, donc effectivement, c'est marrant, ça, d'avoir deux frères et de ne pas pouvoir partager le rugby avec eux.
Avec un papa entraîneur rugby, je pense que les discussions étaient animées, ou du moins tous les tournois 5 nations qui sont passés à 6 nations aussi, ça devait être un peu le grand rendez-vous.
Exactement,
dans la famille.
D'autant que le rugby était beaucoup moins télévisé il y a quelques années qu'aujourd'hui, donc on ne manquait pas les matchs du tournoi des 5 nations à l'époque.
Vous aviez d'autres passions ou vous étiez rugby?
Alors pendant longtemps, j'ai alterné entre le rugby et le tennis. Et il a fallu faire un choix pour des raisons d'emploi du temps et d'implication de manière générale. Donc j'ai choisi de continuer à jouer au rugby.
Et vous avez d'autres passions, peut-être la musique
La musique, c'est un rituel familial chez nous. Donc on a, avec nos enfants, mon épouse et mes enfants, l'habitude effectivement d'inonder notre maison de musique à chaque fois que c'est possible. Et on a un de nos fils qui est très réceptif à la musique.
Bon, il n'y a pas de voisins, j'espère?
Non, on a la chance d'habiter dans une maison qui est un peu éloignée des voisins.
Combien d'enfants vous avez, Régis?
3.
Vous nous les présentez?
Oui, Lisa, qui a fait hier 15 ans, qui est ma grande fille, finalement.
Bien, bon anniversaire, un tout petit peu en retard, Lisa.
Oui, Louis, qui a 11 ans, et Léon, qui a 9 ans. Donc, une fille et deux garçons.
Vous êtes un papa comblé?
Totalement.
Et vous arrivez à tout gérer, le fait de devoir monter à Paris, que votre famille soit encore là-bas? C'est pas un souci pour vous?
J'ai la chance d'avoir une épouse compréhensive et qui fait beaucoup de choses chez nous et qui prend effectivement la responsabilité, lorsque je ne suis pas là, de tout faire. Donc j'en profite pour lui passer un bonjour et je crois qu'on l'entendra.
Christelle, qu'on écoutera tout à l'heure, bon. Effectivement.
Non, effectivement, elle fait beaucoup de choses et elle me permet du coup de travailler dans d'excellentes conditions, même si c'est, je ne vous le cache pas, c'est un sujet d'organisation. Quand on a 3 enfants, des déplacements, ouais. Et elle aussi, bien évidemment, travaille.
Vos déplacements, vous les quantifiez comment? C'est quoi? On parlait tout à l'heure de tous les 10 jours, c'est ça?
Oui, tous les 10 jours sur Paris, mais je me déplace également dans les grandes métropoles pour aller à la rencontre des opérateurs immobiliers à Bordeaux, à Nice, à Montpellier, à Nantes dernièrement. Donc je me déplace au moins une fois par semaine. Donc j'utilise à peu près tous les moyens de transport possibles.
On décrit nos auditeurs, Régis Comartin, parce que c'est vrai qu'en radio, on n'a pas l'image.
Régis, là, on a l'image, Fabrice.
Alors, on a l'image, mais on ne le voit pas. On le voit pas, voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez fit, on va dire, hein, en forme. Hein. Justement, petite routine sportive, ancien sportif, ça continue. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour l'entretien, Régis?
Je me suis reconverti au vélo.
Ah, d'accord.
Si on m'avait dit ça il y a quelques années, je...
Mais oui. Pas électrique, alors?
Non, il n'est pas électrique. Non.
D'accord. Le vrai vélo.
Le vrai vélo, c'est sur route. On a la chance d'habiter à Toulouse, proche des Pyrénées. Donc, on a même parfois la chance d'aller grimper des cols mythiques des Pyrénées, comme les coureurs du Tour de France.
Vous faites ça
pas
en club?
Pas à la même vitesse, par contre. Non, entre amis.
D'accord. Donc, c'est quoi? C'est un petit groupe d'amis, de collègues ou d'amis de longue date?
Oui. Alors, à la fois un de mes amis proches, hein, avec qui je fais du vélo régulièrement, et puis un groupe d'amis... disons professionnels de l'immobilier, un notaire, un avocat, un architecte qui font du vélo et on s'est retrouvés sous la même passion. Donc ça nous arrive de rouler en petit peloton ensemble.
Bon, on n'est pas loin non plus, effectivement, vous l'avez dit, des Pyrénées avec des belles stations.
Oui.
Le ski, un
oui.
petit peu.
Oui, ouais. Oui, les Toulousains ont la chance de pouvoir aller au ski assez facilement, puisqu'on a les premières stations à moins d'une heure et demie de Toulouse. Je pense à Superbagnères, à Peyragudes, par exemple, qui sont désormais de belles stations et qui, justement, le Fonds Tourisme Occitanie participe à la rénovation de stations de ski avec le passage d'un tourisme tout hiver à un tourisme 4 saisons. Donc, désormais, les stations de ski c'est l'hiver, mais c'est aussi l'été et, ouais. Et c'est aussi un grand bol d'oxygène possible. Je pense notamment à la station de Peyragudes qui a fait beaucoup pour attirer du tourisme vert et du tourisme 4 saisons.
Et puis surtout qu'on a découvert avec le Covid et les stations, les remontées mécaniques fermées, oui. Qu'on pouvait faire autre chose que du ski dans les stations de ski.
Oui, même si le ski nous manque et on pense à tous les professionnels de l'industrie du ski qui, je l'espère, vivront un hiver 2021 plus heureux, on peut faire autre chose que le ski, effectivement, dans les Pyrénées.
Vous parliez tout à l'heure, Régis, de ce petit peloton de cyclistes duquel vous faites partie avec des amis. Vous avez des amis de longue date?
Oui, effectivement. J'en ai pas beaucoup, mais des amis de longue date, j'en ai quelques-uns, effectivement.
Vous voyez où je veux vous emmener un petit peu, je pense.
Je pense.
On va écouter, pour faire la transition, le deuxième témoignage, c'est celui d'un ami. Il s'appelle Olivier Argentin. Est-ce qu'avant qu'on l'écoute, vous pouvez nous parler un petit peu d'Olivier?
Alors Olivier Argentin, c'est un ami de très longue date, puisqu'on s'est connus dans un club de rugby à Blagnac, dans la banlieue de Toulouse.
Et il se trouve... Combien de temps?
Comment?
C'était il y a combien de temps?
Un certain temps.
Une bonne 25 ans, une bonne vingtaine d'années. Et on se connaissait parce qu'on avait déjà joué l'un contre l'autre, mais on s'est rencontrés finalement en jouant l'un avec l'autre. Et il se trouve que pour l'anecdote, il était militaire il y a une vingtaine d'années et que j'ai fait mon service militaire à ses côtés. J'ai du mal à le dire, mais oui, j'étais à ses côtés.
Ah, c'est assez amusant ça. Bon, on va voir ce qu'il a à nous dire, votre camarade de régiment. On écoute tout de suite Olivier Argentin qui était joint par Élodie Rabel.
Bonjour Olivier Argentin.
Bonjour.
Vous êtes donc un ami proche de notre invité Régis Comartin. D'ailleurs, comment vous l'avez rencontré, vous ?
Ah, écoutez, avec Régis, on s'est rencontrés, ça fait 30 ans de ça. Donc moi, j'étais militaire d'active. Il faisait son service national, donc à l'époque. Et comme il était en STAPS, études de sport, et moi, j'étais moniteur de sport dans l'armée. Donc il a rejoint notre service de sport sur Balma, un régiment sur Balma, basé sur Toulouse. Et en même temps, cette année-là, on avait signé dans le même club de rugby de Blagnac. Et donc, voilà, on a bien sympathisé, voire même plus. Et voilà comment nous nous sommes rencontrés.
J'imagine qu'avec ce genre de rencontre, il doit bien y avoir des petites histoires croustillantes, au moins un souvenir qui vous fait encore sourire des années après.
Souvent, moi, je me rappelle, il y avait des gradés qui lui disaient... Bon, tu diras à ton frère qu'on l'attend pour la garde, pour le service. Et voilà, c'était des petites histoires, des petites anecdotes comme ça, où ça s'est resté. Mais c'est vrai que souvent, on nous confond et on nous prend. On croit qu'on est frère, ne serait-ce que pour notre ressemblance. Quoi. Donc,
On a envie d'en savoir plus. Vous connaissez Régis Comartin depuis longtemps. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 qualités et aussi 3 défauts de votre ami ?
Moi, je suis un petit peu impressionné par son parcours, enfin, fier aussi pour lui. Et quand je vois de là où il est parti, fin de rien, en études STAPS, où il a décidé de basculer sur le secteur un peu médical, il a rebasculé sur le secteur immobilier, et en brillant à chaque fois, et ça, je trouve ça que c'est plus que remarquable. Quoi.
Il est avec nous sur le plateau, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de lui dire, que ça fait quelques années que vous avez envie de lui dire, bah là, allez-y, c'est l'occasion, il vous écoute.
Alors moi, ce que j'aimerais, je vais lui donner un petit objectif à court terme. C'est donc par rapport au vélo, toujours, j'insiste. On a une course, on devait faire une course fin juin qui a été annulée, mais j'aimerais bien qu'il bascule sur la grande ariégeoise et qu'il vienne se mesurer... sur la compétition la plus dure, c'est une cyclosportive, et qui ne s'échappe pas par rapport à ça va être trop dur ou pas assez, et qui fasse cette ariégeoise, qu'on la fasse ensemble.
Alors, prêt à faire cette ariégeoise avec Olivier ?
Je suis inscrit, effectivement, il a raison. Mais je ne suis pas inscrit sur la même course que lui, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un niveau au-dessus, Olivier Argentin, en termes de vélo. Et la course qu'il me propose, elle est juste folle. C'est 180 km dans les Pyrénées, avec 3 ou 4 cols. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai suffisamment de temps pour m'entraîner.
Ça ne vous tente pas ?
Si, ça me tente, mais je ne suis pas encore totalement décidé.
C'est comme l'Ironman, il doit y avoir des niveaux, non ?
Exactement. Ouais. Donc, moi, j'avais choisi la course intermédiaire qui est déjà assez ardue.
Ça n'a pas l'air de lui suffire, votre ami.
Non, c'est un compétiteur également. Et c'est vrai que depuis le temps que l'on se connaît, on se taquine, on se jauge, on se mesure désormais sur le vélo et savoir qui ira le plus vite et qui montera l'école le plus vite.
Et alors, pour l'instant, qui l'emporte ?
Il y a un peu de vent, il faut le reconnaître.
Pourquoi ? Parce qu'il s'entraîne plus ?
Il est coach sportif, donc il fait ça tous les jours. Il a beaucoup de chance, d'ailleurs, de pouvoir faire cela. Il le fait très bien à Toulouse. Et c'est vrai que ça lui laisse la possibilité de s'entraîner quasiment tous les jours, ce que je ne peux pas faire, évidemment.
Ouais, donc, c'est le 26 juin 2021, on pensera à vous. C'est ça, 162 km et 3638 mètres de dénivelé positif. Ça grimpe, ça fait mal aux jambes. Ça. On va penser à vous ce jour-là.
C'est gentil.
On enchaîne, Johanna, effectivement, avec notre invité, Régis Caumartin. C'est toujours intéressant de savoir un petit peu l'envers du décor, ce qui vous porte, ce qui vous anime, le regard que vous portez aussi, même si votre carrière n'est pas terminée, sur ces différentes transitions. On l'a vu, trois carrières déjà, une quatrième, ça on ne sait pas encore. Est-ce que vous pensez justement, je crois que vous avez posté justement sur LinkedIn ce changement de carrière qu'il ne faut pas s'empêcher dans la vie au gré des rencontres, au gré des opportunités de pouvoir se transformer, changer et exploiter finalement. Vous aviez un talent de commercial et finalement ça peut être dans la pharmacie, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans un autre secteur demain.
Oui, c'est vrai, je pense que j'ai été peut-être un des premiers évidemment, mais dans ma génération, souvent on choisissait une voie et puis... on s'y tenait pendant de nombreuses années. Moi, c'est le hasard de la vie, le hasard des rencontres qui ont fait que j'ai changé de domaine, parfois par choix de vie, parfois par choix professionnel. Mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher, effectivement, de connaître autre chose. Une carrière professionnelle, c'est long, on le sait, et il faut qu'elle soit passionnante. Pour vivre avec intensité le quotidien, il faut vraiment être passionné. Donc, parfois, il y a un phénomène d'usure qui s'installe. Il ne faut pas hésiter à changer de domaine quand on en a la possibilité.
Est-ce que vous avez un mentor qui soit réel ou imaginaire ou un personnage de référence ?
Non, il y a beaucoup de gens que j'apprécie, que je trouve très intéressants professionnellement parlant. Laurent Vimon, par exemple, qui était un de vos invités, je le trouve brillant. Évidemment, quand j'ai démarré dans l'immobilier, et même au-delà, parce que je le connaissais à titre personnel, Jean-Philippe Ruggeri était un modèle pour moi. Mais je n'ai pas envie d'avoir de mentor, mais il y a des gens qui sont inspirants.
Qui comptent. Très bien.
C'est inspirant tout ça. Et vous parliez de faire quelque chose qui nous passionne, l'immobilier, après 8 ans, ça vous passionne toujours ?
Oui, d'autant que désormais je suis de l'autre côté de la barrière. J'ai travaillé donc chez des promoteurs immobiliers. Désormais, M Capital finance les fonds propres des opérateurs immobiliers. Donc je vois un petit peu l'envers du décor et une autre facette de ce métier, puisque l'immobilier c'est vaste et la promotion immobilière c'est un métier très riche où il y a de nombreuses compétences requises. Donc finalement, on a l'impression de les connaître, mais tant qu'on n'y est pas confronté à ces problématiques de montage d'opérations, de financement d'opérations, on découvre encore de nouvelles choses. Donc oui, c'est passionnant et oui, je compte rester encore un petit bout de temps dans l'immobilier.
Donc la suite, toujours l'immobilier.
Exactement.
Pour l'instant, en tout cas.
Pour l'instant, je n'ai pas d'autre objectif que d'accompagner M Capital et que M Capital accompagne mes clients aujourd'hui.
Et sur le volet personnel, alors, quelles sont vos aspirations, vos objectifs ?
Aujourd'hui, je suis à un âge avancé qui oriente un petit peu des choix de vie vers une forme de qualité de vie. Nos enfants grandissent vite, essayer de passer le plus de temps possible avec eux. Donc le choix de vie personnel, il est celui-ci, c'est de pouvoir être en famille le plus souvent possible.
Votre fils joue au rugby ?
J'ai un de mes fils, oui, qui joue au rugby.
Bon, ça fait déjà une passion à transmettre.
Exactement.
Puisqu'on parle de votre famille, Régis, on va écouter maintenant le témoignage de votre épouse, Christelle. Alors, je ne vais pas vous demander de la présenter parce que je viens de le faire et je pense qu'elle va le faire. Elle va nous parler de votre rencontre dans le sonore. On l'écoute et puis on en parle juste après.
Bonjour Christelle Caumartin.
Bonjour.
Vous êtes donc l'épouse de notre invité. Mais dites-moi, comment vous vous êtes rencontrée ?
Dans le milieu du travail. Tout simplement. On travaillait ensemble il y a quelques années.
Comment vous avez franchi le pas un jour, il vous a tout avoué ?
Je crois que ça s'est fait plutôt sur du long terme et qu'on a appris à se connaître. On a longtemps travaillé ensemble sans avoir plus d'affinité que ça. Et puis avec les années, ça s'est passé.
Alors comme vous avez pris le temps de le connaître et en tant qu'épouse, vous le connaissez encore plus, est-ce que vous pouvez nous donner 3 qualités et 3 défauts ?
Alors, 3 qualités, 3 défauts, oui. Donc, on va commencer par les qualités. Donc, sur les qualités, Régis est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est fiable, il est patient et il est très pédagogue.
3 qualités, alors 3 défauts.
3 défauts, alors, qu'est-ce que je pourrais dire ?
Là, c'est croustillant.
C'est difficile.
N'aurait-il que des qualités ?
Exactement. Voilà, c'est l'homme parfait. Je le garde.
Promis, il est pour vous. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée ou que vous vous connaissez maintenant?
Alors maintenant, ça fait... Bon, on va fêter nos 10 ans de mariage cet été. Donc c'est une année importante. On est très contents. Voilà.
J'imagine qu'avec tout ce temps, vous avez bien une anecdote un peu rigolote à nous raconter.
Oh, une anecdote dont on parle assez souvent parce que maintenant on en plaisante. Sur le moment, c'est pas hyper drôle, mais pendant notre voyage de noces... Régis a eu un accident et on a dû rentrer en rapatriement. On n'a pas pu terminer notre voyage de noces. Hein. On était en Thaïlande et sur une excursion et Régis a voulu aller se baigner tout simplement. Et puis en sautant dans l'eau, il s'est fait une rupture des tendons d'Achille. Et du coup, voilà, c'est une urgence médicale et on a dû être rapatriés.
Et pour vos 10 ans, vous allez partir quelque part selon, on imagine, la situation sanitaire, mais des petits projets peut-être?
Eh bien, écoutez, on a toujours en projet un voyage qui devait se faire l'année dernière, lors du premier confinement. On devait partir à l'île Maurice, mais en famille, avec les enfants. Et écoutez, ce n'est que partie remise. Donc oui, on aimerait le faire bientôt.
Alors, comme il est avec nous sur le plateau, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire et que, comme ça, le message est tout de suite passé?
Que je suis très fière de lui.
Très fière. Simple mais efficace et on sent que c'est tout à fait authentique.
Oui, ça fait très plaisir.
Je ne sais pas par quoi commencer. Si je commence par l'homme parfait, en vous demandant de nous citer des défauts, parce que je suis sûre que vous en avez au moins un ou deux comme tout le monde.
Évidemment.
Ce serait quoi?
Je suis assez souvent en retard. C'est un défaut sur lequel je travaille, mais c'est finalement le défaut d'une de mes qualités. Je prévois beaucoup trop de choses dans mon agenda et forcément, ça coince à un moment. Je pense qu'en termes d'organisation, il y a effectivement un défaut à gommer depuis ces nombreuses années que j'ai du mal à gommer.
Oui, il y a des petits trucs, mais heureusement, vous étiez à l'heure ce matin.
C'est vrai.
Et même en avance, même en avance. 10 minutes d'avance sur le timing à peu près. Donc, félicitations Régis pour
Merci.
Ça. On se rend compte que c'était un double effort. Il a fallu se lever et il a fallu arriver à l'heure. Donc, toutes nos félicitations pour ça. Christelle nous disait que vous l'aviez rencontré dans le milieu professionnel. C'était pendant laquelle de vos carrières?
Dans l'industrie pharmaceutique, il se trouve que je fais partie du coup des statistiques des personnes qui ont rencontré leur conjoint au travail. Donc on a d'abord appris à se connaître professionnellement et ensuite personnellement.
Jusqu'à ce voyage de noces un peu particulier dont vous vous souviendrez toute notre vie. C'est quand même pas de peau.
Vous en parliez tout à l'heure, le rugby ça fait pas des beaux vieux, donc j'ai malheureusement subi plusieurs opérations dans ma carrière sportive et il se trouve que effectivement, apparemment le tendon devait lâcher et malheureusement il a lâché
pile,
oui,
au mauvais moment. Bon, il faudra finir ce voyage, c'est pas grave. Bon, là maintenant c'est bien parce qu'on peut amener les enfants, ils sont en âge aussi d'en profiter.
C'est vrai.
Ces beaux voyages, et puis je pense que voilà, ça devrait se réouvrir progressivement. On croise les doigts.
On le souhaite.
On vous souhaite,
ça fera partie de vos projets de l'après-confinement?
Exactement, on a effectivement un voyage à terminer qui est en stand-by.
Puisqu'on parle de l'après-confinement, vous avez des projets, vous, pour le 19 mai, Régis Comartin?
Pas de projet précis, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu assommé par la situation. On a du mal à prévoir les choses avec tous ces rebondissements. Donc rien de précis, mais à n'en pas douter, si on a la possibilité... De ressortir dans de bonnes conditions et d'aller au restaurant ou boire un verre entre amis, ça sera fait.
Alors, quel est le premier verre que vous boirez en terrasse, Régis? Plutôt vin, plutôt cocktail?
Allez, je vais être un peu chauvin, on va dire un lillet tonique.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Le lillet, c'est un vin cuit bordelais.
Ouais, ça se connaît pas en dessous de la Garonne.
Ouais, je crois pas.
Ils essayent, hein, mais
ouais, c'est difficile à s'exporter. Non, c'est un vin cuit bordelais qui peut s'agrémenter en cocktail. Donc c'est rafraîchissant avec un zeste de citron et on peut très bien s'imaginer au bord d'une plage sur le bassin d'Arcachon avec un lillet tonique.
Ouais, aussi place du Capitole, c'est pas sympa. Là,
oui.
Café qui sur les arcades qui vont rouvrir, on a hâte.
C'est vrai, vous connaissez apparemment.
Je connais un petit peu, ouais. Je suis sud-ouest également. Et j'avais une question aussi sur le sport, du coup, pour faire le lien. On a hâte aussi de retrouver des stades remplis parce que
c'est
ça
vrai.
Manque un petit peu de voir ces stades très vides. On entend les joueurs, on a l'impression qu'ils sont à l'entraînement. C'est ce qui manque aussi, la ferveur. Moi, j'ai vécu un petit peu à Toulouse. On m'avait dit, tu verras, il y a trois grands événements à Toulouse. C'est il y a le Nouvel An, il y a le Beaujolais, et puis il y a quand Toulouse gagne la finale. finale, parce que chaque année, il gagne une finale. C'est effectivement à la fin des années 90. La dernière finale européenne, c'était 2010. Donc, ça commence à dater.
Oui, c'est vrai. Et vous avez raison de dire que c'est un vrai événement et qu'on a eu la chance d'en vivre beaucoup ces 20 dernières années avec le Stade Toulousain. Plusieurs finales, plusieurs titres. Et quand c'est le cas, c'est vrai que c'est à voir parce que c'est une effervescence populaire qu'on a oubliée et qui est extraordinaire à vivre.
Plus que le Beaujolais, qui est vraiment un événement là-bas.
À mon époque, ouais, je crois que c'était assez spectaculaire en tout cas. Bon, j'étais étudiant aussi, ça. Bon, voilà, on a pu se croiser hein, peut-être sur ces belles rues de Toulouse. Mais c'est vrai que c'est un événement et bon, on espère hein, effectivement que. Bon, il y a du talent dans cette équipe. Moi, je suis assez persuadé que. Voilà, avec les bons éléments, il devrait quand même peut-être ramener le trophée.
Oui, on a de très beaux joueurs. L'équipe de La Rochelle est une belle équipe, hein, mais on a également une génération de jeunes joueurs avec Antoine Dupont, Julien Marchand, pour ne citer que les deux premiers, qui sont juste extraordinaires. Et je leur passe un petit coucou amical aux deux.
Régis Comartin, on s'approche gentiment de la fin de cette heure qu'on a passée ensemble. Qu'est-ce qu'en conclusion, on peut vous souhaiter professionnellement et personnellement ? Alors, vous nous avez dit que l'immobilier, ça vous emballe toujours, que M Capital, vous y étiez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les semaines, les mois à venir ?
De convaincre un maximum d'opérateurs immobiliers de construire et de co-construire avec M Capital des projets verts, vertueux, qui répondent aux problématiques actuelles, aux problématiques sociales, sociétales, environnementales, pour que l'immobilier ne soit pas du tout béton et qu'on décarbone au maximum notre impact dans la création de logements.
Et personnellement ?
Et personnellement, de continuer à travailler dans ces conditions chez M Capital, qui est une entreprise au top.
Voilà, et puis un bon temps sur la Riégeoise, du coup. Hein. Vous êtes attendu au tournant.
C'est noté, je vous enverrai le chrono.
Ok.
Mais du coup, sur la course moyenne ou sur la grande ?
Bah,
je crois qu'il est très attendu sur la grande boucle.
Je pense que c'est au-delà de mes capacités. Je resterai sur la moyenne avec l'ambition de bien figurer, on va dire.
Bon, Olivier, vous avez vu, on aura essayé de le convaincre. Hein. C'est un échec, mais on aura essayé de marcher dans votre sens. Merci beaucoup, Régis Comartin, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous, merci pour votre invitation.
Mais on était ravis de vous accueillir. Merci à vous, Fabrice.
Merci, Johanna. Bravo. Et on se retrouve, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais très prochainement.
Bon, il y aura en tout cas un Mac de Limo la semaine prochaine, ça c'est évident. Ce matin, à suivre, eh bien, dès 9h, après le Flash Info, Allo Radio Imo, toutes vos questions auprès de notre panel d'experts. À 11h, la semaine copro de Gilles Frémont, et puis on réattaque pour une semaine d'information hein, dédiée à l'actu immobilière. On se quitte sur un dernier titre choisi par Régis Comartin. C'est signé Big Flo et Oli. Ça s'appelle Dommage. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end à l'écoute de Radio Imo.
Louis prend son bus comme tous les matins. Il croisait cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage. Assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer.
Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire. Crois-moi, on a tous dit assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois.
Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller. Tu le fais, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.
Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vaut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.immo et toutes les plateformes de streaming.